Bonjour Thierry Mandon.
Bonjour.
L'opposition réclame de nouvelles mesures de lutte contre la menace terroriste au lendemain de l'attentat de Berlin. Est-ce qu'on peut faire plus ?
Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas saisir de toute actualité dramatique pour faire toujours plus. Il faut analyser les choses froidement. C'est une lutte continue, la lutte contre le terrorisme. Ça demande de la coopération internationale, mais ça demande avant tout du sang-froid. Donc il faut analyser toujours, réfléchir encore plus, mais ne pas se précipiter en fonction des aléas de l'actualité.
Vous pensez que les sociétés européennes vont vivre longtemps sous cette menace permanente et finalement assez terrible?
Oui, oui, c'est un effet induit de, bien sûr, des conflits dans des parties du monde dont on ne voit pas pourquoi ils s'arrêteraient rapidement, et de la globalisation. La globalisation, on a longtemps présenté ça comme des opportunités. C'est des opportunités, mais c'est aussi des risques nouveaux avec lesquels il faut vivre. Terrorisme, sur un autre plan qui n'a rien à voir, mais réchauffement climatique. Et donc, il faut que nos sociétés s'adaptent à cette réalité du monde dans lequel nous vivons.
Vous êtes, Thierry Mandon, l'un des rares membres du gouvernement à ne pas avoir dit quel candidat à la primaire de la gauche vous soutenez. Est-ce que votre choix est fait ?
Mais non, je suis incapable d'en faire un.
Pourquoi ?
Mais parce que pour l'instant, je ne sais pas ce que... J'ai ici ou là quelques bribes de propositions que j'entends des uns, des autres. Mais d'abord, une présidentielle, ce n'est pas un concours de beauté. C'est pas... On ne choisit pas des personnalités sur leur
tête. Alors tous vos collègues qui se sont prononcés, ils l'ont fait à la légère ?
Ils font comme ils veulent. Mais moi, j'observe que quand on ne connaît pas les projets des gens, il y a au moins deux candidats, M. Valls, M. Peillon, qui disent qu'ils présenteront leur projet en janvier. Quand on ne connaît pas leur projet, et quand surtout cette compétition pour l'instant s'engage comme une sorte de croisement de catalogue de la redoute, sans aucune vision, moi je suis incapable de me décider. Donc j'attends avec intérêt le mois de janvier, les débats pour éventuellement me décider si un certain nombre de choses qui me semblent essentielles pour l'avenir de la gauche sont formulées.
C'est quoi ces points-là ?
C'est une chose qui est très simple, la puissance publique. Le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel le commerce gangrène tout, pénètre toutes les pores de la société. Face à ça,
la puissance publique, c'est-à-dire la place de l'État, le rôle de l'État dans l'économie, dans la régulation.
Absolument. C'est face à ça, si la gauche veut exister face au commerce généralisé et au développement des inégalités qu'il induit, il faut que la puissance publique, l'État, la capacité de réguler des sociétés devenues folles de commercer sans arrêt, cette capacité-là soit restaurée au niveau national. Au niveau européen, c'est quoi la puissance publique européenne aujourd'hui, à part une grande machine bureaucratique, on ne sait pas. Au niveau global, mondial, la gauche, c'est la puissance publique. Cette puissance est entravée, il faut retrouver les moyens de l'efficacité, et c'est ça, à mon avis, le sens d'une candidature de gauche pour une présidentielle.
Et ces idées-là, ces valeurs-là, aujourd'hui, ce sont plutôt des partis qui sont aux extrémités de l'échiquier politique qui les portent. Le Front National et Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est tout à fait exact. Alors, il les porte à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils font le diagnostic que dans le monde fou, il faut quand même un gendarme. Il faut quand même quelqu'un qui mette un peu d'ordre dans tout ça. Mais ils le font à l'ancienne, au sens où ils le font avec un surcroît d'autorité, d'affirmation, j'allais dire de coup de menton, qui est plaqué sur un ordre qui n'existe plus. Alors que la nouvelle puissance publique, elle doit être à la fois légitime, donc désirable par les citoyens. Elle doit être coopérative, c'est-à-dire qu'elle doit inventer des formes d'association beaucoup plus étroites des citoyens aux décisions publiques. Elle doit être beaucoup plus exigeante en termes de valeurs éthiques. Enfin, il y a toute une vision qui, à mon avis, manque à la redéfinition de ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui.
Vous disiez récemment que les électeurs de droite ont choisi en François Fillon un homme qui ressemble à ce qu'il dit.
Oui.
C'est une qualité dans votre bouche, ça ?
Oui, bien sûr. Je pense que l'authenticité, c'est quand vous voulez des responsables publics, vous voulez quand même des gens dont vous pouvez non seulement être sûr qu'ils croient plus ou moins à ce qu'ils disent, mais qu'ils y croient dans la durée. Vous avez pas, vous élisez pas des feuilles qui vont se promener au vent en fonction de l'actualité. Vous, dans un monde globalisé sans repères, vous imaginez des gens qui, au contraire, vous ancrent et dont, sur lesquels vous pouvez parier sur le long terme. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec le programme de François Fillon, mais j'observe qu'il ressemble à ce qu'il dit. Voilà. Au moins, il y a une sincérité qu'on peut pas lui enlever.
Et parmi les candidats à la primaire de la gauche, pour l'instant, vous n'en voyez pas qui ressemble à ce qu'ils disent?
Ces derniers jours montrent plutôt l'inverse. On a des déclarations qui surprennent par rapport à des réalités politiques récentes.
Vous parlez de Manuel Valls, par exemple, avec
le 49. Non, je parle en général.
Pas la langue de bois, Thierry Mandon. Le 49-3 qu'il veut supprimer, les heures supplémentaires défiscalisées qu'il veut rétablir, alors que c'est le gouvernement. Pas lui, d'ailleurs, c'est François Hollande qui
Pour le coup, Manuel Valls
Et vous l'aviez proposé d'ailleurs.
Le 49-3, c'est un peu surprenant. Moi, je suis pour la suppression, donc ça ne me gêne pas cette proposition. Ouais. Mais ça, c'est vrai que tout le monde est surpris que Manuel Valls le propose 48 heures, enfin 10 jours après être sorti du gouvernement. Soyons francs avec lui, il a toujours pensé, je le sais, parce que j'en avais parlé avec lui il y a plusieurs années, que les heures supplémentaires défiscalisées, c'était une erreur. Il a toujours, donc il est constant dans ses choix. Non, mais donc voilà, c'est en effet des gens qui, des colonnes vertébrales, des armatures, des gens qui soient quand même de la terre ferme dans un monde où tout semble se dérober sous les pieds des citoyens.
Alors vous vous êtes réjoui hier avec Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, et le gouvernement a même parlé d'une adoption historique après que le Parlement a entériné une proposition de loi centriste qui permettra une sélection à l'entrée du master dès la rentrée 2017. Moi je croyais naïvement que la sélection c'était un tabou absolu pour la gauche. Il est donc tombé ce tabou.
Le parcours sélectif c'est tout à fait compatible avec la volonté de la gauche qui est de démocratiser plus encore l'accès à l'enseignement supérieur. On veut beaucoup plus d'étudiants qui fassent des études supérieures, mais on ne veut pas des étudiants qui fassent des études supérieures en leur donnant un diplôme qui soit un chiffon de papier. On veut des étudiants qui seront qualifiés avec des niveaux remarquables au plan international. Et donc c'est ça, combiner démocratisation et exigence, parcours sélectif. On peut faire les deux. C'est le sens de la proposition de loi, modifiée quand même par le groupe socialiste au Sénat, donc un équilibre entre plusieurs sensibilités politiques, qui remet en place le droit à poursuivre des études et à avoir des parcours sélectifs, et la réalité. Parce qu'il faut quand même voir que ça fait 14 ans que tout le monde ferme les yeux sur ce qui se passe dans les facultés, dans les universités, où cette sélection, elle existe, mais elle est illégale et clandestine, et où des familles lésées portent plainte contre les universités parce qu'elles s'estiment victimes de parcours sélectifs indûment et gagnent. Donc voilà, on a remis le droit cohérent avec la réalité et en même temps affirmé démocratisation et exigence.
Vous étiez il y a quelques jours en Iran pour renforcer la coopération en matière de recherche et d'enseignement supérieur entre nos deux pays. C'est un partenaire fiable aujourd'hui l'Iran ?
Je le crois. Grande culture, grand pays scientifique, très grand pays scientifique, volonté de coopération du monde universitaire absolument stupéfiante, et en même temps présence de la France qui doit se réaffirmer là-bas. C'est tout à fait stupéfiant de voir que il y a 10 fois plus d'étudiants iraniens aux États-Unis qu'il n'y en a en France, malgré les sanctions internationales. Oui. C'est-à-dire que même quand il y a des sanctions, les États-Unis arrivent à faire cheminer leurs intérêts dans les pays entre guillemets sanctionnés. La France, elle joue le jeu clairement et finalement disparaît. Donc j'étais très content de l'appétit retrouvé de partenariat loyal entre l'Iran et la France.
Vous ne serez pas candidat aux législatives prochaines, Thierry Mandon. Est-ce que vous allez quitter le monde politique ?
Non, je pense que la bataille politique aujourd'hui, elle se joue sur le plan de la circulation des idées, sur la production des idées, sur la circulation des idées. Je pense que ce qui manque à la gauche aujourd'hui, c'est cet humus-là d'un débat politique, d'idées nouvelles qui, même si parfois c'est un peu en décalage avec la société, remettent un terrain favorable à la gauche. Et donc c'est ce combat-là qui m'intéresse.
Est-ce que vous aurez des regrets en partant ?
Aucun.
Le choc de simplification que vous deviez mettre en charge, rappelons que vous avez été à la réforme
de l'État,
peu de temps, mais vous avez l'impression qu'il a eu lieu ce choc de simplification?
Il a été amorcé, il y a des mesures intéressantes, mais je ne vais pas faire le catalogue ici, mais il y a une réalité contre laquelle on a buté qui nous ramène à ce que j'ai de la puissance publique aujourd'hui, c'est que si on ne change pas la façon dont l'administration travaille, si on n'invente pas une administration plus décentralisée, plus agile, plus collaborative, alors non seulement on ne pourra pas simplifier, mais on ne peut pas restaurer une puissance publique agile dont notre pays a besoin.
Merci Thierry Mandon. Bonne journée.